Alors, le message d'aujourd'hui va reposer sur un petit rappel, sur un message que j'avais apporté il y a déjà pas mal de temps. C'était avant Oav Israël, avant la visite de nos amis. Est-ce que vous avez apprécié le témoignage de David et Sherry Horton? C'était impressionnant. On voit la puissance de l'évangile dans une vie, la puissance de la rédemption. Alors, c'était bien avant, donc, je sais pas, il y a au moins un mois, quand j'ai prêché sur le fait d'assumer les responsabilités que l'on a. Et si vous vous souvenez, j'ai pris l'exemple d'un pasteur qui a expliqué comment il élevait ses enfants. C'est-à-dire que ce pasteur-là, s'il trouvait quelque chose qui n'était pas à sa place, alors je ne sais pas à qui est le manteau, mais je vous le rends. Hein. Si par exemple, quelqu'un rentre à la maison et au lieu de mettre le manteau dans le placard, dans le vestiaire, ou là où il devrait être, il est jeté juste sur un canapé, et qu'il trouve ce manteau-là qui n'est pas du tout à sa place, il demandait à ses enfants, mais dis-moi là, à qui est-ce? Et normalement, l'enfant disait, bah, c'est à moi, ok, d'accord. Et sa manière d'élever ses enfants n'était pas de dire, ok, tu le prends et tu vas le remettre à ta place. Donc ce que faisait ce pasteur, c'est qu'il disait à son enfant, eh bien, je veux que tu ailles trouver ta mère. Et tu vas dire, maman, je voudrais que tu ailles prendre le manteau que j'ai laissé sur le canapé et qui d'ailleurs est tombé, et je voudrais que tu ailles le mettre pour moi dans le placard. Alors évidemment, l'enfant dit, ah ben non, je ne peux pas demander ça, attends, ah ben non. Il dit, ah si. Tu vas demander à ta mère d'aller récupérer le manteau que tu n'as pas mis à sa place, et tu vas lui demander d'aller le mettre à sa place. Et évidemment, l'enfant le faisait peut-être une fois, deux fois, mais il ne devait pas le faire longtemps parce que l'embarras était grand. Et ce que j'avais expliqué dans ce message, c'est que, tiens Jean-Marc, et merci pour la personne qui me l'a prêté, ce que j'avais expliqué dans ce message, c'est que si on n'accepte pas d'assumer les responsabilités que l'on a, celles même qui sont dans la vie de tous les jours, hein, ou celles qui sont peut-être un petit peu plus grandes encore vis-à-vis au travail ou autre, eh bien, il y a quelqu'un qui va devoir le faire à notre place. Et on avait vu également que les gens qui sont irresponsables ont tendance à se cacher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte de ne pas avoir assumé leurs responsabilités. En général, ils accusent toujours quelqu'un d'autre. Non, mais tu comprends, c'est pas moi, blablabla, c'est un autre. On voit également qu'ils ont un impact dans la vie des autres, puisque les autres vont devoir faire ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes dû faire. Et ensuite, on a vu que les gens qui sont irresponsables, eh bien, se créent pour eux-mêmes une vie qui est difficile. Et il y a un mot ou une locution qui est très souvent entendue avec cette notion de responsabilité, c'est le fait de rendre des comptes. Un synonyme, on parle de redevabilité, c'est-à-dire que l'on doit. Très souvent, on entend cela, notamment pour les impôts, les taxes, ce que l'on veut, mais l'idée, c'est de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Regardez avec moi dans Job, chapitre 33, verset 13. Alors, dès que l'on parle de rendre des comptes, c'est-à-dire que quand on a des responsabilités, eh bien, on a des comptes à rendre. Et cette expression, très souvent, est entendue, perçue comme quelque chose de négatif. La preuve, regardez les réactions. qu'est-ce que tu vas parler? Rendre des comptes, moi j'ai des comptes à rendre à personne, moi je t'explique là, hein, je dois rien à personne, je fais ce que je veux moi. Et peut-être que si on comprend ce que la Bible a à dire, eh bien on comprendra, on verra ensemble qu'à vrai dire, le fait de rendre des comptes est un outil de promotion. Dieu n'y voit pas du tout un aspect négatif, mais c'est quelque chose de très positif et c'est une promotion, c'est un standing supérieur, c'est un avancement qui est à la clé. Vous avez trouvé avec moi dans Job chapitre 33, verset 13. Il est dit, c'est Job qui dit à un ami, et il parle de Dieu, il dit, mais pourquoi donc disputer avec lui, avec Dieu, parce que Dieu, ne rend aucun compte de ses actes. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il a décidé qu'un homme se marie avec une femme. Il a de compte à rendre à personne. C'est ça la vérité. Il a établi le principe des semailles et de la moisson. Il n'a aucun compte à rendre à personne. Dieu l'a voulu comme cela et on sait que Dieu est bon. Donc tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Hein? Mais une autre version dit, pourquoi lui as-tu intenté un procès à lui qui ne rend compte d'aucun de ses actes? Et la version Louis II, 1910, dit, Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Et la raison pour laquelle Dieu ne rend aucun compte de ses actes, c'est parce qu'il n'a personne à qui rendre compte. Il n'y a personne de plus grand que Dieu. À qui est-ce que Dieu rendrait compte de ses actes? Il est Dieu. En revanche, pour tous ceux qui ne sont pas Dieu, il y a quelqu'un de supérieur au-dessus de nous. Et celui qui est supérieur à tous ceux qui ne sont pas Dieu, ont des comptes à rendre à quelqu'un. Et on verra à qui. Donc, oui, Dieu, lui, ne rend compte de ses actes à personne. En revanche, dans Romains, chapitre 14, verset 12, voici ce qu'il est dit, Romains, chapitre 14, verset 12, il est dit, « Ainsi chacun de nous, dit à ton voisin, c'est de moi dont il est question. » Et puis, dis à ton autre voisin, c'est de toi dont il est question. Romains chapitre 14, verset 12, « Ainsi chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. » Dieu n'a de compte à rendre à personne. En revanche, nous aurons des comptes. Et on va voir comment, hein. Nous aurons des comptes à rendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est le verbe logos, c'est le mot logos qui est employé, c'est-à-dire que ce sont des comptes que l'on va rendre par nos paroles. C'est-à-dire que le mot, la locution « rendre des comptes » veut dire, je vais vous donner la définition, elle se traduit par « justifier », elle se traduit par « s'expliquer », Cette locution vient du verbe compter en latin. Rendre des comptes, rendre compte signifie décrire, détailler, rapporter ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Compte à rendre, c'est qui désignait au départ un rapport descriptif à effectuer à une instance supérieure d'une chose exécutée. Il y a un dictionnaire, le dictionnaire des affaires, qui dit « c'est l'obligation d'un individu ou d'une organisation de faire le compte ou état de ses activités, d'en accepter la responsabilité et d'en divulguer les résultats de façon transparente. » Alors, au temps des Romains, il y avait une manière pour un architecte de rendre des comptes. C'est-à-dire que quand un architecte avait construit une arche, par exemple, eh bien, la manière de rendre des comptes, c'est-à-dire de montrer le résultat par rapport à la responsabilité qui lui avait été confiée, c'est que les Romains demandaient à l'architecte de se mettre debout sur la pierre de voûte. Alors, la pierre de voûte n'était jamais à un mètre. Hein. C'était... Imaginez les cathédrales que vous avez vues, enfin pas les cathédrales, les viaducs, les ponts, les grands édifices, etc. Et c'était, ok, tu nous dis que ce que tu as fait était conforme à ce qui t'avait été confié comme projet, ok, teste-le toi-même. Alors, le Seigneur ne va pas nous demander ce genre de choses. En revanche, les explications que nous allons donner à Dieu sont des explications de résultats qui vont se faire par la parole. Nous allons lui parler. Alors, vous allez dire, mais on va lui parler de quoi exactement ? On va parler de quoi à Dieu ? Ben, on va parler à Dieu de ce qu'il nous a confié. Il nous a confié la vie de Jésus. Il nous a confié 24 heures par jour. Nous avons tous 24 heures par jour. Il nous a confié des talents. Certains ont le talent pour coudre, comme on l'a vu avec la jeune Juliette. D'autres ont le talent, vous allez dire, pour conduire. Tu dis ça, c'est facile. Ah, peut-être pas comme tu le penses. Peut-être pas comme tu le penses. Un professionnel, c'est pas juste quelqu'un qui a son permis. D'autres ont la capacité de jouer avec les chiffres, d'autres ont la capacité d'élocution, ont des talents pour s'occuper des enfants, pour les éduquer, d'autres c'est bancaire, d'autres c'est tout ce que vous voulez, mais on a tous des talents. Et ces talents-là, aucun n'a pu le fabriquer. C'est quelque chose qui a été donné, qu'on en ait un ou qu'on en ait plusieurs. On est tous arrivés sur cette terre avec un potentiel. On est tous venus sur cette terre avec 24 heures par jour à gérer. Et puis Dieu nous a donné des relations, des gens qu'il a mis sur notre chemin. Ça aussi, c'est une responsabilité d'entretenir les relations que Dieu nous a données. Il y a des tas de choses, des biens matériels que Dieu nous a donnés. Tu dis, non, je les ai gagnés par mon salaire, mes propres forces. Dis-moi, as-tu eu la santé pour te rendre à ton travail? As-tu trouvé un travail? Eh bien, tout cela vient de Dieu. Et quand on va se présenter devant le Seigneur, eh bien, la Bible nous dit que Dieu va nous dire, alors, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la destinée? Quand on vient sur cette terre, eh bien, nos parents ont peut-être des projets pour nous. Peut-être il y a des enfants qui sont nés dans une famille d'hommes d'affaires et le père se dit, mon fils, ma fille, je veux qu'il reprenne mes affaires, je veux qu'il fasse ceci, je veux qu'il fasse cela. Mais Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et une chose est sûre, la Bible nous dit que notre destinée est cachée en Dieu. C'est-à-dire que personne n'a fabriqué son futur. Personne. Le futur, Dieu a un futur pour chacun de nous, pour chaque personne sur cette terre, et notre vie est cachée en lui. C'est pour cela que quand on ne se laisse pas trouver par Dieu, on ne trouve pas son futur. On ne sait pas pourquoi on est né et on ne sait pas ce qu'on fabrique sur cette terre. Mais en lui, on sait ce que l'on fait. Donc, si vous voulez, il est normal que celui qui nous a donné tant de choses nous dise « Ok, qu'est-ce que tu en as fait ?» Peut-être que certains vont dire « Moi, à part me servir pour moi, je n'ai jamais rien fait d'autre. » Or, on sait que la Bible nous dit de penser aux autres, de représenter le Seigneur auprès des autres. Mais l'idée ici, c'est que la notion de compte à rendre, elle est bien dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 36, 37, il dit « Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, toute parole vaine. » Vous savez, le genre de parole, oui, je te promets que, et on n'avait aucune intention de le faire, aucune intention. Des paroles qui sont vaines, toutes sortes de paroles vaines. Alors, il y a encore dans Galates chapitre 6, versets 4 à 5, il est dit que chacun examine sa propre conduite s'il peut en être fier. Il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui, car chacun doit porter sa propre charge. À nouveau, chacun est responsable de ce qui lui a été confié, et avec ce qui nous a été confié, eh bien, un jour, il faudra que l'on explique au Seigneur ce que l'on en a fait. Est-ce qu'on a gaspillé? Est-ce qu'on a gaspillé ce que le Seigneur nous a confié? Est-ce que tout le temps que nous avions, nous l'avons gardé uniquement que pour nous? Est-ce que nous avons accepté de passer du temps avec lui? Est-ce que nous avons utilisé un peu de ce temps pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs spirituels, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et la Bible dit que pour nous qui avons une responsabilité spirituelle, j'aurai des comptes à rendre à Dieu pour votre âme. Ça ne veut pas dire que j'ai des comptes à rendre de ce que vous faites de la révélation que vous avez reçue. Je n'ai pas de compte à rendre de ce que vous faites de votre vie. Ça n'est pas de cela, grâce à Dieu, ce n'est pas de cela dont il s'agit. J'ai assez de comptes à rendre pour ma propre vie. Mais comment est-ce que j'aurai des comptes à rendre pour vos âmes? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fidèlement donné ce que le Seigneur m'avait donné pour vous? Est-ce que j'ai obéi à ce que le Seigneur me demandait de faire pour vous? Après, ce que vous faites avec ce que je vous donne, ça ne me regarde plus. Grâce à Dieu. Vous imaginez, ce serait pas tenable sinon. Hein? Mais en revanche, moi j'aurai des comptes à rendre. Et je peux vous dire, en tant que pasteur, je vis avec cette conscience de mes 24 heures. Je vis avec cette conscience que j'aurai des comptes à rendre de ce que j'ai fait avec ce qu'il m'a donné pour vous. Donc, encore une fois, cette notion de compte à rendre, c'est un terme comptable, hein. Il y a les comptes, c'est-à-dire le Seigneur donne et après il compte, il dit en fonction de ce que je t'ai dit de faire avec ce que je t'ai donné, voilà, maintenant, viens et justifie-moi, montre-moi les comptes, montre-moi les progrès, montre-moi ce que tu en as fait. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, et évidemment, on se rappelle de la parabole des talents. Vous vous rappelez, il y a cette parabole-là d'un homme riche qui part, il quitte le pays et puis il revient au pays et il fait venir à lui des personnes à qui il avait confié des talents qui représentaient des sommes. Et à un, il a confié un talent, à l'autre, il en a confié cinq, à l'autre, il en a confié dix. Et puis, il a dit, ben, pendant mon absence, eh bien, gérer de manière à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Le Seigneur, encore une fois, nous a donné 24 heures. Ça, c'est un investissement que Dieu a fait dans notre vie. Le Seigneur nous a donné des talents, des dons, des capacités. C'est un investissement que Dieu a fait dans notre vie. Dieu nous a donné des biens, différents biens matériels. C'est un investissement que Dieu a fait dans notre vie. Et la Bible nous dit, le moment viendra où il y aura cette notion de, et ton mari, ta femme ne sera pas là avec toi, hein? Alors, qu'est-ce que ce fameux jour du jugement? N'ayons pas peur, et on va voir pourquoi, parce qu'à vrai dire, c'est formidable. Et moi, j'ai un peu hâte pour vous dire la vérité. Certains disent, oh, ouf, 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 oh là là, il y a quelque chose de bon là qui va se profiler. Bien sûr qu'il y a quelque chose de bon qui va se profiler. La Bible nous dit que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il est déjà passé de la mort à la vie. La Bible nous dit que le péché a déjà été jugé. Donc quand on va tous se retrouver devant le Seigneur, il y a ceux qui ont déjà accepté Jésus, et la Bible nous dit que pour nous qui avons accepté Jésus, eh bien, il va nous demander ce que l'on a fait avec tout ce qu'il avait investi dans notre vie. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, pendant qu'ils étaient sur cette terre, ils vont se retrouver devant le Seigneur sans le pardon de leurs péchés. Ils vont se retrouver devant le Seigneur sans la vie éternelle en eux. Quand on accepte Jésus, on reçoit la vie du Seigneur en nous, la vie du ressuscité. Et ceux qui ont refusé Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont refusé que Jésus a payé pour leurs péchés, vont se retrouver avec leur propre nature pécheresse devant Dieu, avec leurs propres œuvres inutiles devant le Seigneur, et le Seigneur va dire qu'il en soit fait selon tes paroles. Et toute la vie de la personne va passer devant, et le Seigneur va faire écouter à cette personne, va lui prouver que jamais cette personne, pendant son séjour sur terre, n'a accepté le Seigneur, n'a accepté le pardon qui lui était gratuitement offert. Mais c'est énorme. Et là, la personne, le Seigneur pourra lui dire qu'il en soit fait selon ce que tu as voulu. C'est-à-dire, tu as voulu vivre sans moi, tu as refusé le pardon que je t'offrais gratuitement, alors va vivre dans cet état de non-pardon pour l'éternité. C'est long l'éternité. Et la raison pour laquelle l'évangile est prêché jusqu'à aujourd'hui, c'est absolument magnifique. C'est quand le Seigneur dit « Priez pour qu'il y ait des ouvriers qui aillent dans la moisson », mes amis, c'est énorme. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur envoie des gens dire « Acceptez ». Cette réconciliation avec le Seigneur. Ne quittez pas cette terre sans avoir accepté Jésus. Et une fois que les gens ont entendu parler de cette bonne nouvelle, ils sont libres d'accepter ou pas. S'ils n'acceptent pas, une fois qu'ils se retrouvent devant le Seigneur, le juste juge, eh bien, le Seigneur ne pourra pas les forcer à vivre avec lui pour l'éternité et il dira alors, pour l'éternité, va dans un endroit où j'ai choisi de ne pas être. Maintenant, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ben la Bible dit que nous aurons des comptes à rendre, non pas pour notre péché que nous aurions commis, parce que ça, c'est réglé. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que David a dit. Quand David a dit, vous savez, pour vous qui choisissez de fumer, eh bien, Dieu ne vous en veut pas. Ben évidemment qu'il ne vous en veut pas. Personne n'ira en enfer parce qu'il fume. En revanche, parce qu'il fume, il risque d'aller plus tôt que les autres au ciel. Clac, 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 clac. Je dis, je vais répéter, c'était une blague, mais elle est bonne. En tout cas, il y a une vérité là-dedans. Je dis que vous qui choisissez de fumer, vous n'irez pas en enfer parce que vous fumez, mais vous irez plus vite au ciel. Certains ne rient plus du tout, mais bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15, 12b, il est dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, l'œuvre de nous tous, chrétiens, sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera. » Regardez dans Luc chapitre 12, verset 48. La Bible dit clairement que nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes. Et on pourrait se dire, mais pourquoi devrons-nous rendre des comptes à celui qui ne rend des comptes à personne ? Dans Luc chapitre 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Regardez la partie B avec moi. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est-à-dire que plus le Seigneur nous a confié quoi ? Des amis, par exemple. Confier quoi ? Des biens à gérer. Confier des... Et la révélation que Dieu nous a confiée. Vous ne croyez pas qu'un jour, Dieu va nous demander des comptes ? Toi qui savais beaucoup, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et on pourra dire, ben, moi Seigneur, j'en ai profité pour l'insérer dans ma vie de prière. Et j'ai prié mieux parce que je connaissais plus. J'avais une plus grande révélation, alors j'ai obtenu plus de réponses dans la prière. Ben moi, je l'ai partagé avec d'autres. Ben moi, j'ai vécu plus de guérison grâce à ce que... C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose avec ce que j'avais compris, ce qui m'avait été révélé de la parole de Dieu. Mais remarquez que la Bible dit, on nous demandera. On nous demandera. Alors, quand on entend tout cela dans 1 Corinthiens, chapitre 4, non, c'est pas cela, laissez-moi cela, je vais revenir après. Le fait de devoir rendre des comptes, ça, à nouveau, ça peut paralyser les gens de peur. Surtout si, jusqu'à aujourd'hui, ils se disent, franchement, ce que j'ai fait avec ce qui m'avait été donné, c'est plutôt nul, quoi. Je m'en suis servi que pour moi, ou j'ai rien fait, ou j'en ai profité uniquement pour me faire de l'argent, j'ai jamais pensé à d'autres, j'ai accumulé, ou j'ai gaspillé mon temps, ou gloire à Dieu, il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire quand on a compris. Jamais trop tard. Mais il faut savoir pourquoi Dieu va nous demander des comptes. Est-ce qu'il va nous demander des comptes pour nous châtier? Ben, il vaut mieux qu'on sache répondre à cette question. Parce que si on ne sait pas répondre à cette question, on va avoir peur du jour où on va devoir rendre des comptes. Et peut-être, j'espère en tout cas, que ta famille sera avec toi au ciel. J'espère que tous tes amis seront avec toi au ciel. Mais le jour où je vais devoir rendre des comptes, ce n'est pas mes amis qui vont répondre pour moi. Ce n'est pas ma sœur qui va répondre pour moi. Ça n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni sa femme, ni mes neveux, nièces, et aucun, personne. Je vais être devant Dieu. Et j'ai hâte. Et j'ai hâte. Pourquoi est-ce que j'ai hâte? Parce que peut-être que je sais quelque chose. Et ce que je sais ne me fait pas peur. Bien au contraire. Alors, pourquoi est-ce que Dieu demande des comptes? Eh bien, parce que le fait de devoir rendre des comptes va agir comme un marqueur qui peut évaluer le progrès et voir si la personne grandit dans sa prise de responsabilité devant Dieu, la société, la famille, etc. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai des comptes à rendre, eh bien je peux mesurer les progrès que j'ai faits. Les progrès que j'ai faits dans la gestion de mon temps, les progrès que j'ai faits dans la manière de garder mes amitiés, peut-être qu'avant, bien, plus facilement les laisser partir, les progrès que j'ai faits avec la révélation qui m'est confiée. Je reçois plus d'exaucement de prière, c'est plus facile pour moi de rester en bonne santé. Mais le fait de devoir rendre des comptes, eh bien, ce sont des marqueurs. C'est « Ah, d'accord !» Avant, je faisais cela, mais maintenant, je sais que faire de la révélation. Donc, je vais mesurer. Cela me rend capable de mesurer les progrès. Le fait de rendre des comptes aide les gens à réaliser que la loi universelle des semailles et de la moisson est toujours active. Vous rappelez ce qu'il est dit dans Galates chapitre 6, 5 et 7. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens. Alors bon, là c'est dans le domaine financier, mais il y en a d'autres. Avec celui qui lui donne cet enseignement, il est dit, ne vous y trompez pas. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. C'est-à-dire que le jour où on va avoir des comptes à rendre, mes amis, ça va être pour recevoir. Recevoir ce qu'on a semé. Bien sûr qu'il y a des choses que l'on reçoit maintenant. On a une moisson maintenant, parce que cette loi de semer et de récolter, c'est une loi universelle, que les agriculteurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien, elle fonctionne pour tout le monde. Mais nous pouvons l'activer intentionnellement. Et maintenant, il y a des choses que l'on a semées dans notre vie. On a semé de la patience, on a semé de l'amour, on a semé des dîmes, on a semé du temps, on a semé des talents, on a fait beaucoup de choses comme cela. Mais qui sait qu'on n'a pas tout reçu ce que l'on devrait recevoir? Et le jour vient où, quand on va rendre des comptes, ce sera le temps de notre moisson. On pourra dire au Seigneur, on pourra s'expliquer avec le Seigneur. Seigneur, j'ai semé cela. Et tu vois, quand j'ai semé cela, eh bien, tu as lu les motifs de mon cœur. Tu as lu mes intentions. Tu as vu ce que personne n'a vu. Et ce jour-là, mes amis, les comptes à rendre, ce ne sera pas un compte pour le péché, ce sera un compte pour notre obéissance. Vous voyez comment c'est tordu, la religion nous a donné le portrait d'un père fouettard. Ah la 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 la. Et on s'imagine Dieu sur son trône, un sceptre, et il y a des éclairs qui jaillissent de ce sceptre. Il y a des anges, mais on ne sait pas s'ils ressemblent à des démons, parce que ça fait peur. Parce que Dieu, le juste juge, le créateur, va devoir rendre des comptes, et lui, il n'en rend à personne, donc il a raison. Et on va entendre des genoux s'entrechoquer partout dans la salle du trône. Il va y avoir une foule. On va entendre des dents claquer dans la salle du trône. Évidemment, il y aura un silence. Pour qu'on entende les dents claquer, pour qu'on entende les genoux s'entrechoquer. Il y aura un silence pesant, les yeux du Père, choum. Et nous, on sera là. Et on n'osera pas le regarder, parce que s'il fait peur. Mais certains vivent leur vie comme cela. Les religieux, ceux qui disent « Ah, tu sais, j'ai pas prié assez, j'ai pas fait ma prière aujourd'hui. » Et en plus, je me rappelais même plus de quel côté était Jérusalem. Alors qu'imagine, je me suis retournée vers Moscou, moi. Je sais plus, le nord, le sud, l'est, je sais même plus où il était. C'est vrai, on va avoir des comptes à rendre, mais Jésus a rendu des comptes pour notre péché. Nous allons rendre des comptes de ce que nous avons fait avec obéissance. Ce qui veut dire, ce sera un temps de récompense. Et c'est exactement ce qu'il nous est dit dans Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois que c'est 4 ou 3, je ne sais plus. « Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. » Alors chacun recevra de Dieu les récompenses, ou une autre version dit les félicitations qu'il mérite. Une autre version dit la louange qu'il mérite. Tu sais que Dieu attend de pouvoir te féliciter. Tu dis bon, Dieu félicite maintenant depuis quand? Ben oui, Jésus a dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Et tu sais que quand Dieu dit bon et fidèle à quelqu'un, tu crois qu'il le fait en colère. Ouais, bon et fidèle, hein, je ne peux pas faire autrement, mais... Allez, viens, ouais, viens chercher ta récompense. Promotion, ah ouais, bah écoute... Non, il est tellement content. C'est du style, tu sais, celui qui a franchi la ligne d'arrivée, le fil, il l'a cassé, il est arrivé... On ne se compare pas aux autres dans notre course. Chacun suit sa propre course. Chacun a son propre parcours avec Dieu. Mais je vais vous dire, arriver de l'autre côté, arriver devant le Seigneur, ça va être les applaudissements. La Bible nous dit que nous avons des témoins qui voient notre course avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ce qui se passe au ciel que le ciel ne voit pas ce qui se passe. Et toutes les choses qui se passent en Dieu, pas du côté des ténèbres, toutes les choses qui se passent en Dieu, toutes les victoires que nous avons,
tous les exaucements que nous avons parce que nous avons cru à la parole de Dieu, cru à la fidélité de Dieu. Vous n'imaginez pas combien ils se réjouissent là-haut. Et que quand nous allons passer de l'autre côté du voile, eh bien, on y va et on a l'assurance d'abord qu'on est aimé de Dieu. Parce que, encore une fois, ce qu'on a fait de mal ne retire rien à l'amour de Dieu, ne diminue pas l'amour de Dieu à notre égard. Même ceux qui consultent leur portable à l'église, Dieu les aime quand même. Tu comprends que Dieu ne nous attend pas avec « je te demande des comptes ». C'est pas cela. C'est un Père qui est tellement content, tellement content. Quelquefois, il se dit « j'aurais tellement voulu te donner bien plus ». Alors vous dites « mais c'est quoi le bien plus ?» Eh bien, la Bible nous parle de la vie éternelle, c'est-à-dire que tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des responsabilités qui vont être données, même de l'autre côté, plus de responsabilités qui vont être données. Avec, vous ne croyez pas que tous les projets de Dieu sont réunis sur cette terre quand même, ce n'est pas possible ça. Surtout que le temps est limité quand même. Dieu a des projets en deçà de cette terre. Dieu a des projets pour l'éternité. Et il y en a qui vont avoir plus de responsabilités que d'autres, et ça n'a rien à voir avec le fait des pasteurs. Parce que si quelqu'un a été trouvé fidèle dans son appel et qu'un pasteur n'a pas été fidèle, le jour où il aura des comptes à rendre, il risque de voir quelqu'un de son église qui passe devant et qui reçoit plus. Et puis la Bible nous dit que nous recevrons une couronne. Nous recevrons une couronne, des pierres précieuses seront ajoutées à cette couronne. Et la Bible nous dit qu'ensuite, notre obéissance qui sera matérialisée, je dirais, par cette couronne de pierres précieuses, la Bible dit que nous la déposerons au pied du Seigneur. Et certains, ce sera une couronne qui sera lourde. Peut-être que certains auront besoin de dire aux anges, venez ici parce que c'est trop lourd cette histoire-là, venez m'aider. D'autres diront, ah, bouge pas, moi, il n'y a rien dessus. Donc, il est certain que le fait de devoir rendre des comptes à Dieu, cela nous ramène à une notion d'éternité. Cela nous fait voir au-delà de notre vie sur terre. Le fait de devoir rendre des comptes à Dieu nous donne un sentiment de propriété, d'appartenance. Quand Dieu nous a confié une tâche, quand Dieu nous a... Alors vous allez dire, oui mais attends, Dieu... Il y en a qui disent, moi tu sais, ok, des comptes à rendre à Dieu, oui mais moi je rends des comptes à personne sur terre. Ben, c'est ça le truc. C'est que Dieu agit à travers une autorité qu'il a déléguée. Et que si on n'accepte pas, il y a des gens qui n'acceptent pas de devoir rendre des comptes à d'autres. Et la Bible nous dit que nous avons des comptes à des personnes qui sont en autorité au-dessus de nous. Il y a toujours quelqu'un qui est en autorité sur nous, ne serait-ce que les impôts. À l'église, ben, c'est le pasteur. Pas pour votre vie privée, mais pour la vie spirituelle, la vie d'église, ça l'est. À votre travail, c'est votre employeur. Vous dites, ben moi ça tombe bien, je suis auto-entrepreneur ou je suis à mon propre compte. Ben, il y a quand même quelqu'un qui est en autorité. Et le Seigneur agit à travers toutes ces autorités. La Bible nous dit que le principe de l'autorité déléguée vient de Dieu. C'est-à-dire que si je n'accepte pas d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un sur cette terre, selon le principe de l'autorité déléguée, cela veut dire que personne ne pourra mesurer mes progrès et cela veut dire personne ne pourra me donner de promotion. Parce que le principe, un des bienfaits de rendre des comptes, eh bien, c'est de pouvoir mesurer les progrès et de dire « Oh, dis donc, ça c'est bien ce que tu as fait. Alors, parce que tu as bien fait cela, eh bien, non seulement il y a des récompenses, mais il y a de la promotion. » Et quand je vous disais tout à l'heure, le fait de rendre des comptes, c'est une locution qui est bonne dans la pensée de Dieu, parce que c'est un outil pour qu'il nous donne la promotion, ou que pour que les autorités par lesquelles il règne nous donnent de la promotion. C'est-à-dire que refuser de rendre des comptes, c'est stagner dans la vie. C'est aussi simple que cela. C'est stagner, hormis le fait que nous aurons des comptes à rendre à Dieu de toute façon. Mais tu sais, si on n'a jamais voulu de rendre des comptes sur terre à quelqu'un, le jour où on va se retrouver devant Dieu et qu'on aura des comptes à rendre, on n'aura aucune œuvre d'obéissance à lui montrer. Aucune récompense à recevoir. Parce que la Bible nous dit que le corps de Christ opère comme un corps. On est tous interdépendants. Alors j'espère que vous vous rendez compte que cette notion de rendre des comptes, eh bien, n'est pas négative. Mais elle doit être bien présente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sur terre comme si jamais on aura à expliquer la vie que l'on a menée devant le Seigneur. On aura à justifier. Parce que la Bible nous dit que oui, on aura des comptes à rendre, mais ça n'est pas devant un père fouettard, c'est devant un père qui nous aime et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir nous donner les récompenses qui sont liées à l'obéissance de ce qui nous a été révélé et confié. Mais en attendant que l'on soit devant lui, il y a des comptes à rendre aux personnes qui ont autorité au-dessus de nous. Les enfants, par exemple, ont des comptes à rendre aux parents. Quand les parents disent, dis-moi, est-ce que tu as rangé ta chambre? Je reviens souvent sur la chambre, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que tu as, je ne sais pas moi, rempli le lave-vaisselle comme il se devait? Est-ce que tu as vidé la poubelle? Est-ce que tu as fait ci? Des tâches à leur niveau. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le jour où ils veulent une voiture, on peut leur confier les clés en sachant qu'ils ont été fidèles dans les petites choses. Et qu'ils ont inculqué cette notion d'assumer des responsabilités et de devoir rendre des comptes. Vous comprenez comment ça marche? Ben dans l'enthousiasme général, il est évident que quand on a accepté de devoir rendre des comptes, on sait que quand il y a des périodes de stress, eh bien, on tient beaucoup plus ferme. Je vais terminer avec ce que l'évangéliste Billy Graham a dit. Il a dit « La moisson est toujours urgente. La destinée des hommes et des nations a déjà été destinée. Chaque génération est stratégique. Nous ne sommes pas responsables pour la génération passée et nous ne sommes pas pleinement responsable de celle qui est à venir, mais nous le sommes pour notre propre génération. Dieu nous tient responsables du fait de remplir les responsabilités qu'il nous a données pour notre âge, pour notre période, afin de tirer profit des opportunités qu'il place devant nous. Alors moi je vais vous encourager à ne pas vous rebeller, et plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ doit connaître son Dieu. Plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ doit comprendre que l'on fonctionne comme un corps et que ceux qui veulent vivre comme Lucky Luke, le cavalier seul, ce sont des gens qui en général le font parce qu'ils ne veulent de compte à rendre à personne. Mes amis, c'est un piège qui va se refermer sur vous. C'est un piège qui va se refermer sur vous. Alors, peut-être que c'est le moment, on va prendre le pain et le vin là, et on va se dire, ok, Seigneur, où en est ma vie vis-à-vis des responsabilités que l'on m'a confiées? Peut-être qu'on peut se demander, mais est-ce que l'on peut me confier des responsabilités? Parce que si on ne peut pas me confier des responsabilités, il y a un problème, il y a un malaise là. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en train d'assumer les responsabilités? Est-ce que j'accepte de devoir rendre des comptes? Ou est-ce que Non, moi je fais ce que je veux. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, ça. Et vis-à-vis de Dieu, est-ce que Dieu m'aurait dit de faire quelque chose et je ne l'ai pas fait? Est-ce que Dieu m'a dit de faire quelque chose et je suis tellement content d'avoir pu le réaliser par sa grâce? Et de toute façon, pendant que nous prenons le pain et le vin, nous allons méditer sur ce jour glorieux où nous allons nous retrouver devant notre Dieu aimant et nous allons lire tout l'amour qu'il a pour nous. Et vous savez, qu'on ait obéi à Dieu ou pas, il va nous aimer quand même. On va se retrouver devant un Dieu qui nous aime, qui nous aime. Et pendant qu'on prend le pain et le vin, on va méditer sur cet amour-là.